talmudique.
Son père lui dit, fais ce que tu voudras, même que ça te rapporte rien, mais je veux que tu fasses quelque chose. Il avait horreur de penser qu'il était paresseux. Et je suis réfléchi, comme ça, son titre de livre, à la recherche du temps perdu et le temps retrouvé.
Oui, ça.
Et il n'était pas perdu, la recherche, non. Parce qu'il la faisait, sa recherche. Parce que depuis toujours, il a magasiné. Il a magasiné et il n'a vécu que de ça.
Au fond, son père n'a jamais cru à sa vocation d'écrivain, véritablement.
Ah ben, en dernier, il ne s'occupait plus de rien. Mais il y a une lettre dans laquelle il dit, « Papa, je pense que mon avenir, c'est la littérature. »
Stéphane Zagdanski, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wacklin.
Stéphane Zagdanski, c'est un grand plaisir de se retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre conversation autour de l'œuvre de Marcel Proust, en soulignant le tissage subtil entre l'écriture, la lecture et la vie. Et le témoignage de Céleste Albaret que l'on vient d'entendre souligne à quel point Marcel Proust était vivant, drôle, plein d'humour et de générosité, des attitudes et des qualités que l'on trouve dans toute son œuvre, où la littérature, pour lui, c'est la vie, le livre, c'est la vie. Dans son livre sur la lecture, qui est la préface à Sésame et l'Hélice, il écrit cette très belle phrase que j'aimerais que vous commentiez pour commencer l'émission d'aujourd'hui. Il dit, et c'est là en effet un des grands et merveilleux caractères des beaux livres, et qui nous fera comprendre le rôle à la fois essentiel et limité que la lecture peut jouer dans notre vie spirituelle, que pour l'auteur, il pourrait s'appeler conclusion, et pour le lecteur, incitation. Nous sentons très bien que notre sagesse commence où celle de l'auteur finit, et nous voudrions qu'il nous donnât des réponses quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs. Stéphane Zagdanski, merveilleuse phrase.
C'est merveilleux, c'est très beau et c'est très profond comme toujours. Et c'est l'idée que Proust déploie dans la recherche, que l'on est fécondé par ses lectures. Un écrivain, en tant qu'écrivain, il est d'abord fécondé par les lectures, les grandes lectures qu'il fait. Et dans la recherche, c'est le grand écrivain qui est la génération qui précède le narrateur, c'est Bergotte, qui est un peu Anatole France, mais pas tant que ça, et qui est surtout Proust lui-même. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque le narrateur, très jeune, découvre, donc au début de la recherche, la prose de Bergotte, Proust décrit cette découverte précisément comme celle d'un texte qui est composé de différentes strates, dont certaines sont plus profondes et secrètes que d'autres. Donc on retrouve un petit peu le maranisme dont on a parlé la semaine dernière chez Proust, et qui n'apparaissent que peu à peu. Et il emploie, c'est très beau, il emploie pour décrire le style de Bergotte qui l'éblouit et qui le bouleverse et qu'il découvre, il parle de flots cachés d'harmonie ou de préludes intérieurs qui soulevaient son style, dit-il. Et dès lors, cette lecture n'est pas une lecture passive, parce qu'il faut aller à la recherche, pas seulement du temps perdu, mais de ce qu'il y a de vitalité dissimulée dans les phrases et dans le lit des phrases, et c'est comme une infusion de pensée qui va permettre au narrateur de se découvrir en lui-même, de découvrir en lui-même, exactement comme le phénomène de la mémoire involontaire avec la petite Madeleine qu'il décrit au tout début, les différentes strates qui sont aussi profondément enfouies en lui-même et les plus secrètes. Alors on peut lire un passage où il évoque ça, qui est magnifique. « Un de ces passages de Bergotte, le troisième ou le quatrième que j'eusse isolé du reste, me donna une joie incomparable à celle que j'avais trouvée au premier, une joie que je me sentis éprouver en une région plus profonde de moi-même, plus unie, plus vaste, d'où les obstacles et les séparations semblaient avoir été enlevés. » Là, on retrouve en quelques lignes, d'abord l'importance mystique, profonde et très juive encore, de la joie de la création, la joie de la lecture et la joie de l'écriture qui sont une seule et même joie. Et puis, ce trait paradoxal qui est typique aussi de Proust, c'est que c'est en isolant, en découpant un passage de Bergotte, que le narrateur va résoudre et dissoudre les séparations qui sont en lui. Donc là encore, on a une sorte de paradoxe et de contradiction. C'est en isolant un petit passage qu'il va désobturer quelque chose en lui qui était inconnu de lui-même.
On va approfondir cette idée de la lecture. On a souvent comparé l'œuvre de Proust à une cathédrale. Stéphane Zagdanski, quel est le sens de cette comparaison ?
Alors pour commencer, c'est lui-même qui, à la fin de la recherche, compare son grand roman à faire, mais en fait qui est déjà parachevé pour le lecteur, à une cathédrale. Alors c'est un grand amour chez Proust, les églises et cathédrales françaises, l'architecture, la très belle architecture du Moyen-Âge, et ça le relie encore à sa mère, parce que c'est avec sa mère, par exemple, qu'il a traduit de l'anglais la Bible d'Amiens de Ruskin, qu'il a beaucoup influencé dans son rapport aux cathédrales. Alors pourquoi c'est si important les cathédrales? Parce qu'on y retrouve toutes les thématiques dont on a parlé la dernière fois, toutes les thématiques du maranisme, en tout cas du rapport en miroir, et en miroir de douceur et de complicité entre le catholicisme et le judaïsme, qu'on retrouve sur les cathédrales. Il y a évidemment quelque chose qui est très important, c'est que pour lui, la cathédrale, c'est quasiment comme un midrash de pierre, un commentaire, un texte en pierre, mais qui est un texte vivant, c'est pas un texte pétrifié, c'est un texte en pierre qu'on doit lire, exactement, dont on doit lire les petites statuettes, les milliers de petites statuettes, dont certaines sont invisibles, sont situées tellement haut qu'on ne peut pas y accéder, mais qui continuent à travers les siècles, donc avec l'idée du temps, évidemment, de la pérennité dans le temps, de nous parler et de nous attendre, et d'attendre qu'on les voit alors qu'elles sont invisibles. Par exemple, il dit, lorsqu'il parle de Ruskin, donc du grand spécialiste de la cathédrale d'Amiens et des cathédrales en France, « Mais il est temps d'arriver, écrit Proust, à ce que Ruskin appelle plus particulièrement la Bible d'Amiens. » Pour parler de la cathédrale d'Amiens, donc le mot il est de Ruskin, c'est la Bible d'Amiens, au porche occidental. Bible, c'est Proust qui parle, qui commente, est prise ici au sens propre, non pas au sens figuré. Le porche d'Amiens n'est pas seulement dans le sens vague où l'aurait pris Victor Hugo un livre de pierre, une Bible de pierre, c'est la Bible en pierre, dit-il. Et donc non seulement il compare les cathédrales à des livres, mais il les compare à des êtres vivants. Et ça, c'est merveilleux. Par exemple, il a été très peiné par les bombardements de la Première Guerre mondiale contre les cathédrales d'Amiens, de Caen, de Rouen. Et il va intituler un texte qui va apparaître, si je me souviens bien, dans le Figaro, pour s'en plaindre, « En mémoire des églises assassinées ». Et il écrit, par exemple, « Les cathédrales ne sont pas seulement les plus beaux monuments de notre art, mais les seuls qui vivent encore leur vie intégrale ». Donc là, on a quelque chose qui est quasiment mystique, de l'ordre de la résurrection et de l'ordre du rapport entre la pétrification des petites figures, dont beaucoup sont des figures, par exemple les rois d'Israël, qui sont sur le porche des cathédrales, des figures de pierre, et la vie qui est à l'intérieur et qui traverse ces figures de pierre, et qui va renaître cette vie par le regard et par la méditation de celui qui regarde et qui admire ces cathédrales. Il se faisait conduire la nuit devant les cathédrales par son chauffeur pour les éclairer avec les phares. Il y a une scène comme ça dans la recherche, ou devant une église, pour en examiner et en méditer les petites figurines. Chez Proust, son rapport à la mystique juive, il passe par le Christ. C'est très intéressant. C'est-à-dire, il va rejudaïser le Christ, il va faire quasiment une bouture de l'Ancien Testament sur le Nouveau Testament. C'est-à-dire, l'Ancien Testament devient quasiment le plus jeune, celui qui va rajeunir le Nouveau Testament, dans la manière dont Proust fait jouer ces deux entités que sont le catholicisme, du côté de son père, et le judaïsme, du côté de sa mère. Par exemple, lorsqu'il parle de la figure incarnée et sanguine du Christ, qui est donc, comme on le disait la dernière fois, le plus célèbre fils juif de l'histoire, voilà ce qu'il écrit, toujours par rapport aux cathédrales et aux églises. On peut dire aux églises, il imagine qu'on va parler, on va se mettre à parler aux églises, qui sont des personnages vivants. On peut dire aux églises ce que Jésus disait à ses disciples. 2. Excepté si l'on continue à manger la chair du Fils de l'homme et à boire son sang, il n'y a plus de vie en vous. Saint Jean 6,55. Donc il cite le Christ qui appelle ses disciples à manger son corps et à boire son sang. Ces paroles un peu mystérieuses, continue Proust, mais si profondes du Sauveur, devenant, dans cette acception nouvelle, un axiome d'esthétique et d'architecture. Donc vous voyez, il y a vraiment une lecture subversive du christianisme, et très belle en même temps, et qui n'est pas du tout transgressive, mais qui est judaïque du christianisme. Les cathédrales et les églises, pour Proust, sont quasiment comme si dans la pierre était restée vivante une palpitation typiquement juive qui va lui parler. Il n'a pas eu accès à l'hébreu, il n'a pas eu accès à l'araméen du Talmud, il n'a pas eu accès aux grands textes mystiques dans la langue originale, mais la langue originale de son judaïsme en lui, et qui va revivifier en écrivant la recherche, d'une certaine manière, il la voit palpiter sur les façades des cathédrales.
Et en même temps, c'est une lecture et une traduction, puisque il va traduire Ruskin de l'anglais, et dans la préface à la Bible d'Amiens, justement, maintenant on comprend le sens du mot Bible d'Amiens, il va parler de la traduction et de l'importance de la traduction, Stefan Zagdanski.
On revient aussi au thème très important du rapport entre la lecture et l'écriture, c'est que pour lui, un livre, un grand livre, et c'est comme ça qu'il conçoit la recherche et qu'il cherche, quand il dit à la recherche du temps perdu, en fait ça signifie ça, c'est-à-dire comment apprendre au lecteur à lire le livre qu'il est en train de lire et le livre que je suis en train d'écrire, moi, Marcel Proust. Donc c'est quelque chose dans ce rapport, c'est une traduction de soi-même, c'est pas une traduction d'une langue étrangère, c'est une traduction d'une langue inconnue. Parce qu'un grand livre, c'est la grande idée de Proust, c'est un livre qui doit, il faudrait parler un petit peu du style, de la grandeur du style de Proust. C'est un grand livre, c'est un livre qui doit faire être une invention dans la langue telle que jamais aucune de ses phrases n'a jamais été dite ni proférée auparavant par aucun écrivain et ni par personne. Donc c'est une nouvelle langue, mais d'une nouvelle langue que tout le monde peut lire, parmi ceux qui parlent la langue française. Donc c'est évidemment quelque chose qui caractérise le style absolument inouï de Proust, qui en fait le plus grand des plus grands, et qui est un style qui est, il le disait lui-même, un critique s'était plaint qu'on s'ennuyait en lisant Proust, ce qui est une absurdité, personne ne s'ennuie en lisant Proust, même si les phrases sont extrêmement longues, c'est comme s'ennuyer de nager dans la mer, c'est quelqu'un qui dirait, oui, moi je préfère nager dans ma baignoire, je peux pas, la mer c'est trop vaste, je m'ennuie. Non, évidemment, on ne s'ennuie pas quand on est dans Proust. Et donc il disait, c'est ridicule cette critique de ce critique, il dit, parce qu'il n'y a jamais, il n'y a pas une seule phrase banale dans tout ce que j'ai écrit, 5170 pages, où quelqu'un, par exemple, se rend, va ouvrir la fenêtre ou met sa veste. Dire quelque chose qu'un autre aurait pu écrire à sa place. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Quand on lit Proust, du début jusqu'à la fin, que ce soit des phrases très longues ou des phrases très courtes, tout est inédit, tout est nouveau, tout est révolutionnaire au sens où on découvre le monde d'une autre manière en lisant dans le mot à mot même de Proust, chaque phrase. Et c'est très intéressant cette histoire du rapport entre le lecteur et l'auteur, c'est que figurez-vous, Proust évidemment est très connu pour ses phrases très longues. On a même retrouvé sa phrase la plus longue, c'est dans Sodome et Gomorre, elle fait 800 et quelques mots. Ça c'est une phrase sans point final, enfin où le point final arrive au bout de 850 mots. Mais figurez-vous que j'ai retrouvé la phrase la plus courte de Proust. Il y en a deux, une qui est encore plus courte, mais une des phrases les plus courtes, c'est merveilleux parce qu'elle elle apparaît tout à la fin de la recherche, elle fait trois mots. Ce qui est pour Proust est un exploit. Et c'est lorsqu'il décrit à quel point ça va être dur d'écrire ce roman extraordinaire sur le temps, qu'il vient de finir d'écrire en réalité. Et il le dit, c'est long à écrire. Trois mots. Donc c'est un paradoxe extraordinaire. C'est la phrase la plus courte qui décrit à quel point ça va être long à écrire la recherche du temps perdu. Et pour être très honnête, il faut dire qu'il y a en réalité une phrase encore plus courte, qui est lorsque Swann est tellement jaloux d'Odette qu'il veut la découvrir dans une maison et qu'il se trompe de volet, je crois, il dit « il regarda », donc deux mots. Voilà. Mais il regarda, il ne vit rien. Donc ce qui encore renvoie l'invisibilité et le rapport entre le visible et l'invisible, qui est un thème tellement important chez Proust.
Vous venez de parler, de nous expliquer l'importance des cathédrales chez Proust, et c'est vraiment merveilleux. Pourtant, ce n'est pas une cathédrale à laquelle pense Proust en écrivant La Recherche, en tout cas pas seulement une cathédrale. Il écrit dans Le Temps retrouvé, « Car épinglant ici un feuillet supplémentaire, je bâtirai mon livre, je n'ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe, Stéphane Zagdanski, comme une robe. »
Oui. Alors ça c'est très beau parce qu'il y a tout le thème des robes qui viennent de Venise d'ailleurs, des robes de Fortuny qui étaient des robes extraordinairement belles de grands couturiers de l'époque. Alors le rapport à la robe, de nouveau on retrouve la mère évidemment, la figure maternelle, la figure féminine, et là on entre dans une autre partie gigantesque de la recherche, à savoir le rapport entre les sexes. Et la question de la subversion aussi du rapport entre les sexes, les hommes entre eux, les femmes entre elles, les hommes avec les femmes et les femmes avec les hommes, la jalousie, l'amour, le vice, la vertu, qui sont des thématiques aussi très 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 prégnantes dans la recherche. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une robe. Vous savez, il y a une phrase merveilleuse de Bataille qui dit « Un écrivain devrait écrire comme une femme accoutumée à l'honnêteté enlève sa robe dans une orgie ». Bataille, qui était un écrivain qui avait beaucoup réfléchi aussi sur le rapport entre le vice, la vertu et la nudité et la transgression et de la subversion. Donc c'est très intéressant parce que Proust, finalement, d'une certaine manière, et Bataille était un grand lecteur de Proust, fait l'inverse, c'est-à-dire il écrit comme une femme qui mettrait sa robe et qui habillerait et qui composerait sa robe.
Alors il écrit en fait, on peut dire, comme un tailleur.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et je crois que l'idée qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a chez Proust aussi encore un autre paradoxe et un autre parallèle qu'il fait entre eux, c'est lié à la robe de Fortuny et donc à la robe, la très belle robe que la duchesse de Guermantes, par exemple, met lorsqu'elle va à un bal, donc seulement dans la très haute société on peut s'offrir et dont on peut se couvrir. Le rapport, il est entre les juifs et les aristocrates. Quelque chose de très intéressant chez Proust, c'est-à-dire qu'il compare la fidélité au nom, au passé, évidemment au temps qui infuse dans chacun être, parce qu'on est relié à la fois chez les aristocrates, à l'ancêtre de la maison familiale des siècles en amont, et chez les juifs, évidemment, au texte qui est le en amont et qui est le texte des textes et qui nous relie verticalement de Moïse jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, encore un autre parallèle qui fait entre les juifs et les aristocrates de la grande aristocratie, c'est une grande liberté de jeu avec les noms. C'est-à-dire parce qu'on les aime ces noms et parce qu'on se reconnaît dans un nom et que ce nom nous rattache à une temporalité qui vient de très haut, on peut en jouer et en jouir. Il donne l'exemple du grand aristocrate de la recherche, un des grands personnages aristocratiques de la recherche, qui est Charlus, le baron Charlus, qui s'appelle Palamède, qui est un nom très ancien, un nom très beau. Il y a des longues digressions de Proust sur l'ancienneté du nom, mais qui se fait appeler Mémède par sa famille aristocrate. Donc on joue avec les noms, les petits hypocoristiques, comme on dit, c'est-à-dire les manières fraternelles et complices de transformer un nom. C'est quelque chose, évidemment, que les Juifs aussi connaissent bien.
La notte è bella, va presto l'inetta, andemo in targheta, i freddi a chiamare. La sonigo si so che se se me cava per coder sabava che tu pia dal mar.
La Barchetta, poème de Pietro Buratti, musique de Reinaldo Hahn, un enregistrement de 1909 qui nous fait entendre la voix de Reinaldo Hahn lui-même, c'est très émouvant, s'accompagnant au piano, suivi d'une version de ce même poème chantée par la soprano Adrienne Savoie, accompagnée par Michel Beauchamp à la guitare à sept cordes. Reinaldo Hahn, qui avait rejoint Proust pour un séjour à Venise dans l'année 1900 et qui composa un cycle qui s'appelle Venezia de 6 chansons, dont cette sublime Barchetta. Venise est l'une des villes les plus présentes et les plus importantes de la recherche. Qu'est-ce qu'elle représente véritablement, Stéphane Zagdanski?
Alors c'est très important ce que vous venez de dire, Marc-Alain, c'est qu'en effet, il faut d'abord dire que Reinaldo était l'amant de Proust et le grand amour de Proust. C'était une grande histoire d'amour entre Reinaldo Hahn et Marcel Proust. Et le fait qu'il se retrouve à Venise, c'est très intéressant parce que c'est la ville du désir pour Proust, Venise. C'est une ville qu'il a longtemps désiré visiter avec sa mère, et seul ensuite avec Reinaldo Hahn, et qui est la ville où le visible et l'invisible et où l'imprédictibilité de l'architecture et de la structure est permanente, donc l'inventivité de cette ville, et c'est une inventivité de beauté absolue, parce que c'est la grande ville de la peinture aussi, évidemment, c'est l'Italie, et c'est une des grandes villes d'Italie où la peinture est tellement présente et tellement importante pour Proust. Donc où le rapport entre la surface et la profondeur, exactement lorsqu'on parcourt une ville, on est à l'intérieur de la ville en même temps, on ne la pénètre pas tant qu'on n'en a pas médité le mystère. C'est quelque chose qui, pour Proust, était en écho permanent avec sa propre écriture de la recherche. Donc c'est pour ça qu'elle a une place si importante dans la recherche. Et d'ailleurs, les robes de Fortuny, les fameuses robes auxquelles il compare la structure de son roman à la fin du roman, sont des robes qui représentent des scènes de Venise, des scènes vénitiennes.
Proust parle de l'ombre tentatrice de l'invisible Venise, de ses palais dissimulés à la façon des sultanes derrière un voile ajouré de pierre, je cite, comme les reliures de la bibliothèque ambrosienne. Un ensemble de termes et d'images qui mettent en scène la dialectique du visible-invisible, cher au Talmud, à la manière dont on parle de la transcendance se manifestant et se cachant à la fois. Et quand on a parlé de l'écriture comme une robe, on sait que Proust écrivait à la fois un texte sur une page, puis la page était pleine, il collait des petits morceaux à côté, les petits morceaux à côté étaient pleins, il collait encore d'autres morceaux, on a appelé cela des paperolles. Quand on voit les paperolles qui constituent le texte original du manuscrit ou de la version dactylographiée, qui, comme le souligne très bien Jean-Yves Tadier, nous montre toutes les strates archéologiques de cette œuvre, toutes les subtilités de sa genèse, on ne peut pas ne pas être frappé par la proximité visuelle de ces paperolles avec la géographie de la page talmudique. Stéphane Zagdanski, et vous m'excusez pour la longueur de cette question.
On ne sait pas vraiment quelles étaient les lectures précises de Proust. Sa connaissance du judaïsme, il était très cultivé. Je ne crois pas que le mot Talmud apparaisse dans la recherche. Si vous voulez, le rapport qu'on peut faire, c'est l'idée qu'il y a un rapport coessentiel entre la forme et le fond. Et que de même que dans le Talmud, on a une typographie tout à fait inventive et inédite et labyrinthique, comme vous l'aviez très bien dit, qui rappelle les canaux de Venise, l'imprévisibilité, la merveilleuse inventivité, imprévisibilité de l'architecture des canaux de Venise, et que ça correspond à la pensée talmudique qui est en effet faite de soubresauts, de danses, de sinuosités et d'ondulations perpétuelles. On a ça aussi avec Proust, où on a des très longues phrases, très sinueuses, très souples, très belles, dont Morand disait qu'elles étaient dans leurs incises et dans linéament comme soutenues par des ballons en l'air, donc d'une grande beauté, et avec une rythmique par la magnificence du choix des mots, du choix des adjectifs, qui surprend toujours. C'est exactement comme à Venise, on arrive devant un petit canal devenu un petit pont, et on pense que ça va tourner à gauche, et en fait, non, pas du tout, ça tourne à droite, parce que c'est imprévisible. C'est aussi un peu pareil dans la grandeur du style de Proust, de ce point de vue-là, on peut la comparer à la fois à Venise et à la fois au Talmud, dont le premier volume ont été imprimés à Venise.
C'est pour oui, ça qu'on c'est compare. Pour cela, c'est que, comme je le dis souvent, l'éditeur, M. Bomberg, a choisi la géographie de Venise pour créer la géographie de la page du Talmud. Alors, cette comparaison, elle va être reprise très vite, de manière bienveillante, par certains commentateurs, dès 1925, je pense à Sora, qui va influencer, de manière très claire, Céline, qui va parler de la phrase de Proust, et qui va, parce que c'est Céline, à la fois être dans un exercice d'admiration, mais aussi ne va pas s'empêcher d'exprimer son fiel antisémite comme il sait le faire de manière classique. Le Céline que vous considérez aussi comme un des plus grands écrivains français, vous lui avez consacré un autre livre qui s'appelle « Céline seule ».
Oui, alors la question de Céline est aussi très intéressante. Céline était, qui est aussi évidemment l'autre grand écrivain français du XXe siècle, c'est incontestable, était passionné par Proust et fasciné par Proust de manière très antisémite au début dans ses pamphlets antisémites. Et évidemment, il y avait une jalousie à l'égard de la grandeur de Proust et il voulait, c'est un rival absolu pour lui. Et donc on a retrouvé une lettre de Céline à Lucien Combel en pleine occupation, daté du 12 février 1943, Combel qui est un collaborateur, et où il parle du Proust et du style de Proust, et il le compare au Talmud, c'est un peu agressif, c'est un peu moqueur, c'est un peu méchant, et en même temps, il y a une grande drôlerie, et en même temps, c'est quasiment très proustien, et une réalité aussi, derrière l'agressivité de Céline, qui est très intéressante. Voilà ce qu'écrit Céline du style de Proust. « Il est beaucoup ergoté autour de Proust. Ce style, cette bizarre construction, d'où, qui, que, quoi ? Oh, c'est très simple, talmudique !» Comme le titre de votre émission, Marc-Alain, je vous le fais remarquer. Le Talmud est à peu près bâti, conçu, comme les romans de Proust. Donc en réalité, il compare le Talmud aux romans de Proust et non l'inverse. Tortueux, arabescoïde, mosaïque désordonnée, le genre sans queue ni tête, par quel bout les prendre, mais au fond infiniment tendancieux, passionnément, acharnément, du travail de chenille. Cela passe, revient, retourne, repart, n'oublie rien, incohérent en apparence pour nous qui ne sommes pas juifs, mais de style pour les initiés. Donc vous voyez, on sent à la fois l'admiration qu'il a pour Proust, le rapport qu'il voit dans l'inventivité du style, qui est aussi son grand désir à Céline. C'est aussi un des grands inventeurs stylistiques du XXe siècle, c'est pour ça qu'il est le plus grand avec Proust, et le côté transversal et subversif de cette inventivité pour décrire les élites et la bourgeoisie et les salons, etc., et pour les traverser et les radiographier.
On comprend l'importance de Venise, on vient de voir le rapprochement entre la structure de la ville et la structure du Talmud et la structure de la recherche. Il y a aussi, par rapport à Venise, quelque chose d'éminemment important dans la recherche, c'est la question de la mémoire involontaire, Stéphane Zagdanski.
Oui, parce que on connaît l'anecdote et l'exemple de la mémoire involontaire avec la petite Madeleine trempée dans le thé au début de la recherche. Mais il y a un autre moment, c'est lorsque, un peu plus loin dans la recherche, lorsque le narrateur trébuche sur un petit pavé mal scellé dans la cour de l'hôtel de Guermantes, ça va faire ressurgir et revivre et sortir des eaux tous ces souvenirs de Venise. Et donc la mémoire involontaire, c'est ce qui, en nous, explique Proust, est quelque chose qui est resté vivant, qui est resté dissimulé, un peu comme son rapport au judaïsme, et qui ne peut pas ressurgir par la théorisation et par l'intelligence et par le calcul et par le chronomètre, mais exactement comme le temps vivant qui ressurgit par le hasard d'une sensation et pas d'une idée ou d'une théorie, et qui va faire revivre en nous les sensations oubliées et tout un monde oublié, mais qui en réalité n'était pas vraiment oublié, qui était dissimulé et scellé pour se préserver. Et Venise rejaillit à ce moment-là, donc on passe de Paris à Venise, ce sont les deux grandes villes au fond de la recherche, et ce rapport quasiment cardiaque et palpitant et sanguin entre les deux villes, et c'est lui qui l'incarne parce que la mémoire involontaire surgit en lui et tout à coup le revivifie. C'est une véritable résurrection du temps et de l'être et de la littérature que cette mémoire involontaire.
Et cela rappelle ce début du Contre Sainte-Beuve où il écrit « Chaque heure de notre vie, aussi morte, s'incarne et se cache en quelque objet matériel, elle reste captive, à jamais captive, à moins que nous rencontrions l'objet. À travers de lui, nous la reconnaissons, nous l'appelons, et elle est délivrée. C'est extraordinaire. On a l'impression que les objets sont comme des mots qui ont préservé ses heures et ses sensations, que l'intelligence jamais ne pourra ramener, mais que la sensation peut éveiller et faire revivre réellement. C'est une découverte, vous avez parlé au début de l'émission la semaine dernière, de découverte révolutionnaire chez Proust. La mémoire involontaire est quelque chose d'absolument fantastique.
Oui, ce qui est merveilleux, c'est que le passage, le très beau passage que vous venez de lire, fait immédiatement penser à la cabale laurianique et à l'idée des étincelles de sainteté qui sont dissimulées, qui sont scellées, qui sont cachées dans tous les objets, y compris dans la pierre, y compris dans l'herbe, y compris dans un animal, dans les êtres humains évidemment, et que le juif pieux a la charge de faire ressusciter. Et ça fait aussi penser à une très belle formule de Proust, qui n'est pas dans la recherche, mais qui est dans une lettre qu'il avait écrite à Binet-Valner, et dans laquelle il dit « Littérature, quel vilain mot quand il ne s'agit que d'entasser des comprimés de vie ». Donc c'est vraiment une idée merveilleuse, c'est que la littérature, ce sont des comprimés de vie et qu'on les met dans la nappe d'eau de la mémoire, et tout à coup, la résurrection surgit.
Comme les fleurs japonaises qu'il décrit, qui s'ouvrent quand elles sont dans le thé. Et d'ailleurs, à propos de ce thé, je me suis demandé, étant donné que son grand-père maternel s'appelait Nathé Veil, non pas Nathan Veil, mais Nathé Veil, est-ce que cette insistance sur le thé qu'on trouve dans la recherche ne viendrait pas aussi comme une sorte de clin d'œil à ce grand-père maternel, Stéphane Zagdanski?
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'au fond, on parlait tout à l'heure de l'inventivité prodigieuse de Proust, et l'inventivité perpétuelle chez Proust dans son style et dans sa pensée. C'est quelque chose qui est aussi typiquement juif, et dont vous venez de donner un très bel exemple avec le prénom Nathé du grand-père de Proust. C'est ce qu'on appelle la nouveauté, la trouvaille chez les juifs, à savoir le chidouche, c'est-à-dire une nouveauté qui jaillit, une nouveauté de pensée, une nouveauté pensive, une nouveauté d'interprétation, et qui donne une joie immense à celui qui la trouve et à celui qui l'entend et qui la reçoit.
Stéphane Zagdanski, est-ce qu'on peut quitter Proust? Comment quitter Proust?
Écoutez, non, d'une certaine manière, on ne peut jamais quitter Proust, et que Proust ne nous quitte jamais. C'est un peu comme la terre promise pour les juifs, c'est-à-dire que c'est à la fois la terre désirée, la terre désirable, et la terre qui est en nous et qui nous habite et qui nous remplit de joie en permanence. Il y a à la toute fin des jeunes filles en fleurs, une phrase merveilleuse où le narrateur décrit l'entrée dans la solitude intérieure qui va lui permettre maintenant de méditer son roman et d'écrire, de méditer l'écriture de ce roman. Dans cette solitude, il se rappelle toutes les joies qu'il a eues à jouer avec les jeunes filles en fleurs, les joies érotiques, les joies esthétiques et les joies au sens propre. Et il va faire une métaphore qui nous ramène justement à la Bible et au judaïsme. Voilà ce qu'écrit Proust, c'est à toute fin des jeunes filles en fleurs, juste avant de quitter Baalbek et d'aller pénétrer dans sa solitude créatrice, il décrit un effet de lumière sur le mur de la chambre dans laquelle il s'est isolé pour écrire et pour méditer. Et sur le mur, qui faisait face à la fenêtre, et qui se trouvait partiellement éclairé, un cylindre d'or que rien ne soutenait était verticalement posé et se déplaçait lentement comme la colonne lumineuse qui précédait les Hébreux dans le désert. Je me recouchais, obligé de goûter, sans bouger, par l'imagination seulement, et tous à la fois, les plaisirs du jeu, du bain, de la marche, que la matinée conseillait, la joie faisait battre bruyamment mon cœur comme une machine en pleine action, mais immobile, et qui ne peut que décharger sa vitesse sur place en tournant sur elle-même.
À la fin de son interview par Georges Belmont, Céleste Albaré, la gouvernante de Proust, parle de ses derniers moments, de ses derniers mots, si l'on peut dire. Je vous propose, Stéphane Zagdanski, de l'écouter.
Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez, monsieur, que je vous l'approche? Rien, Céleste. Laissez-moi seule. Je m'en vais. M'inquiète. Je me frotte contre sa porte, comme vous diriez, cette fenêtre, et son lit était là. Il y avait un couloir qui desservait les pièces qu'on ne faisait jamais usage. Et au pied de son lit, il y avait une porte d'entrée. Et je mets l'oreille à la porte et je reste là, immobile. Et il me dit, il sonne. Je reprends mon couloir, je vais passer toujours par le boudoir et rentre par l'habitude que j'avais. Et il me dit, Céleste, qu'est-ce que vous faites dans le couloir derrière ma porte? Alors je lui dis, mais je ne suis pas dans le couloir, monsieur. j'ai pensé que ça lui déplaisait, je le voyais faible, je voulais pas le contrarier, que j'avais fait quelque chose contre, parce qu'il aimait pas qu'on fasse quelque chose qu'il ne voulait pas. Et je me disais, je veux pas le contrarier. Je disais, mais c'est pas derrière la porte, monsieur. Mais si, Céleste, vous y étiez, ne me mentez pas. Et alors je lui dis, eh bien oui, c'est vrai, monsieur, j'étais derrière la porte. J'étais là parce que j'avais peur que si vous aviez besoin de quelque chose, j'étais plus près de vous si vous aviez eu besoin. Et il n'a rien dit. Alors il me dit, je vous demande de pas m'éteindre ma lumière. Oh, monsieur, qu'est-ce que vous me demandez là? Je ne vous éteindrai pas votre lumière. Ah, parce que ne me l'éteignez pas. Ah non, m'éteignez surtout pas la lumière.
Ce soir commence la fête des Lumières, la fête de Hanouka, et en allumant la première bougie, je pense que cette année, les derniers mots de Proust brilleront d'un nouvel éclat, avec cette certitude que sa lumière ne s'est jamais éteinte. Merci Stéphane Zagdanski pour ce très beau voyage au pays de Proust. Je rappelle le titre de votre livre, Le sexe de Proust. Je voulais inviter aussi les auditeurs à plonger dans les archives de Talmudic pour retrouver les deux très belles émissions consacrées à Proust et le judaïsme que nous avions faites en 2013 avec Julia Kristeva et qui dialoguent magnifiquement avec l'émission d'aujourd'hui et celle de la semaine dernière. Merci encore Stéphane Zagdanski.
Merci à vous Marc-Alain Wachnin.
C'était Talmudic, une émission de Françoise Ménager et Marc-Alain Wachnin, à la prise de son aujourd'hui Cédric Châtelus, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous, bonne fête de Hanouka et à la semaine prochaine.